Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Extrait du rapport concernant le projet de barrage de Sivens dans le Tarn, commandé par l'actuel ministre de l'écologie Ségolène Royal. Le choix d'un barrage en travers de la vallée a été privilégié sans réelle analyse des solutions alternatives possibles. Parmi les arguments classés en chapitre, les experts mandatés évoquent des besoins évalués de manière contestable, une étude d'impact de qualité moyenne ou encore un financement fragile. Ce matin, Delphine Bateau, l'ex-ministre de l'écologie remerciée à l'été 2013, a expliqué sur iTélé que lorsqu'elle était encore ministre, elle avait mis en place un moratoire sur ce type de projet. Moratoire qui a été levé très rapidement après son limogeage, dit-elle. Enfin, tout ça, Rémi, 21 ans, n'en saura rien. Il était contre le barrage. Il est mort dans la nuit de samedi à dimanche, à la suite d'une manifestation contre le projet. Une mort causée, selon toute vraisemblance, par une explosion, selon le procureur. Alors certes, comme l'a si bien dit Bruno Leroux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée sur France Info, il faut dissocier la mort du jeune militant du projet lui-même. Mais que le gouvernement ne se déculpabilise pas trop et songe tout de même aux dégâts, plus ou moins dramatiques, que provoque son acharnement sur certains dossiers, dont fait aussi partie l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le sous-marin. Tout à l'heure, vers 19h30, vous retrouverez le billet Lance-Torpille de Yann, suivi d'une interview d'Antoine Merseman, chanteur du groupe belge Brains, qui sera en concert ce vendredi au Shabada. Il y aura des places à gagner juste après l'interview. Mais d'abord...
De curieuses silhouettes revêtues de blouses grises bariolées surgissent des chapelles du XVIIIe siècle transformées en amphi. Moines des temps modernes qui se mêlent aux visiteurs parfois interloqués.
Qui sont ces moines des temps modernes, ces gens à blouse grise qui errent dans les rues angevines avec des barbes de plus en plus longues au fil des ans? Qui sont ces gens à qui il manque un bouton? Pourquoi parlent-ils une langue différente? Quelle est, pour reprendre une phrase du magazine Néon, cette micro-société aux rites séculaires et mystérieux? Ce soir, nous allons tenter de percer le mystère des Gadzars, les étudiants à l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'ENSAM. Bonsoir Alison Berger.
Bonsoir.
Vous êtes étudiante en première année à l'ENSAM. À côté de vous, Lucille Yabeuf, bonsoir.
Bonsoir.
Étudiante en troisième année. Et en face de vous, Guillaume Brimont, bonsoir.
Bonsoir.
Et Giovanni Dallava, bonsoir.
Bonsoir.
Tous les deux étudiants en deuxième année. Alors d'abord, pour éviter toute erreur de vocabulaire, comment on dit Gadzar pour les filles?
Gadzar.
Gadzar aussi, il n'y a pas de féminin.
Un ou une Gadzar.
D'accord, bon voilà, ça c'est fait. On va peut-être parler un petit peu de l'école avant d'entrer dans cette... micro-société au rite séculaire et mystérieux.
C'est une expression un peu spéciale. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est une micro-société, on est une communauté avant tout. Mais après, le terme de rite, là aussi, peut porter un peu à confusion. Je pense qu'on est avant tout les étudiants d'école d'ingénieurs qui sommes là pour vivre nos années d'étudiants, nous amuser. Et ensuite, on a effectivement quelques traditions qui sont un héritage de notre passé lointain, ça fait quand même 200 ans qu'on est là, à Angers, et qui sont constitués de chants, etc. On pourra en revenir plus tard si vous voulez.
On parlera des traditions donc, tout à l'heure, plutôt que rites, j'ai bien compris. C'est, donc l'ENSAM, c'est une grande école d'ingénieurs, une école publique, vous m'arrêtez dès que je dis une bêtise, hein, qui existe depuis 1780. Et dans toute la France, il y a 8 centres d'enseignement et de recherche et 3 instituts. J'ai lu sur le site de l'ENSAM qu'il y avait 1100 ingénieurs arts et métiers diplômés par an. Donc c'est une grosse machine. Et donc vous êtes installé à Angers, comme vous l'avez dit, Guillaume Brimont. La mission principale, c'est la formation initiale d'ingénieurs généralistes aux disciplines du génie mécanique, du génie énergétique et du génie industriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites quoi après?
Donc après l'école, il y a 24% des étudiants qui vont dans les, dans les, dans les industries aéronautiques, automobiles, etc. Mais il y a aussi des étudiants qui sortent et qui deviennent consultants, qui travaillent dans l'énergétique, sur les plateformes pétrolières, et qui travaillent, qui créent leur entreprise même. Il y a un cursus CREDA de création d'entreprise au sein de l'école.
Et comment est-ce qu'on y rentre à l'ENSAM ? C'est une grande école d'ingénieurs, ça veut dire qu'avant il y a des prépas ?
Oui.
À l'ESAM ?
Donc,
la plus fraîche.
Donc, je viens de prépa, donc j'ai fait un cursus assez classique, classe préparatoire, donc, qui sont ouvertes donc, toutes les classes, il me semble, maths, physique, physique technologie, sciences de l'ingénieur, donc à peu près à toutes les prépas. Il y a aussi un cursus DUT, donc là c'est un DUT génie productique mécanique, il me semble, et il y a aussi, c'est aussi ouvert aux licences, donc pour les diplômés de licence. Qui peuvent rentrer donc aussi aux arts et métiers.
C'est un concours donc assez, assez difficile. Combien il y a de postulants et combien de par promo ensuite ?
Alors c'est difficile, les nombres de postulants, ça, il y a un nombre par filière en fait, il y a un certain nombre par filière. Il y a à peu près, je pense, hein, vous me dites si je me trompe, mais à peu près 10 000 étudiants de classe préparatoire, 10 ou 15 000 étudiants de classe préparatoire en France. Après, les arts et métiers, c'est le concours E3A, donc un concours qui rassemble plein d'écoles d'ingénieurs, dont le STP, par exemple.
Le
STP, c'est l'école supérieure des travaux publics basée à Paris. Donc d'accord. C'est un groupement d'écoles. Et ensuite, savoir le nombre exact de gens qui passent le concours, on peut le dire plusieurs milliers. Voilà, plusieurs milliers, entre, je dirais, au moins 10 000, je pense, à mon avis, sans vouloir trop m'avancer. Et nationalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près 1100 places, 1200 places.
Voilà. Oui, Giovanni.
Après, au niveau des places, ça dépend aussi des filières. Par exemple, quand on fait une prépa physique technologique, donc prépa PT, il y a 550 places pour les arts et métiers, alors qu'en prépa maths physique, il y a par une vingtaine 40, de places.
Quarantaine de places. Places. Ouais. Une 40 places.
Et ensuite, on est dispatché dans toute la France ?
Le choix des centres est défini d'abord par les vœux des étudiants. Donc les étudiants choisissent leur centre en fonction de la ville, etc. Et après, en fonction des places des vœux et des classements au concours, on est attribué dans les centres.
Alors, avant de parler donc des traditions de l'école, on va marquer une pause musicale. Ça s'appelle Djaboula, Let Us Be Free.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Ce soir, dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, on parle des arts et métiers et des gazards avec 4 gazards en studio. Et on va donc aborder ce sujet des traditions du folklore, des gazards. D'abord, comment est-ce qu'on en reconnaît un gazard? Eh bien, il a une blouse. Il a une blouse grise. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, tout d'abord, il a une blouse grise ou une blouse blanche. Puisque la blouse grise, c'est pour les premières et deuxième années. Et à partir de la troisième année, on commence à porter une blouse blanche. Donc pour montrer les fils des ans, etc. Et donc ça permet de rappeler le passé technologique, industriel de notre école. Les premiers élèves étaient dans les forges, etc. Et donc c'est pour, c'est un petit clin d'œil au passé historique.
Il n'y a pas une question non plus d'égalité entre les... d'uniforme, en fait, de se dire on est tous habillés pareil, parce qu'on fait tous partie de la même école.
Si, complètement. C'est aussi une façon d'effacer un peu les différences sociales. Tout le monde est habillé pareil, de la même façon, peu importe d'où on vient. Et c'est une façon aussi de se reconnaître. On voit quelqu'un avec une blouse grise, on regarde, est-ce que je le connais? Oui, tout ça. Voilà. C'est aussi un clin d'œil.
Et je pense qu'il est important de dire, et Alison, je pense que tu pourras confirmer, que par rapport à la blouse et par rapport à beaucoup d'autres choses aux arts, il y a vraiment une liberté totale. Enfin, la blouse, on la porte très souvent, mais pas tout le temps. On sait quand la porter, quand pas la porter. On sait faire le distinguo. Chacun est libre de la porter.
Et sur cette blouse, il y a plein de choses écrites, ou dessinées d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut écrire sur la blouse, par exemple, le nom et le numéro? Alors, je crois que vous avez des surnoms et un numéro qui correspond à une famille. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu?
Alors, effectivement, quand on rentre aux arts, on a, au bout d'un certain temps, un surnom et ce fameux numéro. Alors, ce numéro, c'est ce qu'on appelle en fait la famille. Qu'est-ce qu'une famille? C'est un système de parrainage qui est aux arts très poussé, dans le sens où de génération en génération, des parrains et des filleuls en fait, sont constitués. Et aux arts, on peut parfois remonter à des dizaines d'années. Alors, j'ai un ami dans ma promotion qui voit souvent la personne qui était 55 ans avant lui et aux arts. Ça peut arriver. On a parfois des dîners, des déjeuners, des week-ends avec des gens qui sont sortis des arts, des arts et métiers bien avant nous. On a nos parrains, on a fait un week-end avec nos parrains qui s'appellent les B25, qui sont 25 ans avant nous. Donc on est allé faire un week-end avec eux, c'était vraiment sympa. On a échangé sur leur expérience professionnelle, sur leur carrière, leur projet.
Ça crée un réseau en fait.
Ça crée un réseau, c'est sûr. Hein. C'est un des mots clés aux arts, hein, le réseau aussi. Hein. Et donc ce numéro en fait, ça correspond à. Par exemple, la 152 sera la famille 152, et ça se transmet de génération en génération.
Alors, pour les auditeurs qui ne vous voient pas, Guillaume et Giovanni, vous avez les cheveux longs et vous avez une barbe. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ça, ce que ça signifie aussi? Vous êtes en deuxième année, donc j'imagine que ça fait un an que vous la laissez pousser, cette barbe.
Voilà, depuis fin d'année dernière. Moi, ce n'est pas très poussé, mais
les cheveux.
Pour expliquer ce symbole, c'était avant, l'école était assez militaire, c'était dédié aux pupilles de la nation, et ils se sont laissés pousser les cheveux et la barbe comme signe un peu de protestation face à l'armée. Ça peut venir de là.
Les règles étaient très strictes à l'époque.
Voilà. Et aussi, ça permet aussi de faire une légère différence avec les premières années qui, du coup, sont bien coiffés et bien rasés.
Et comment ça se passe pour les filles? On se laisse pousser les cheveux?
On laisse tout pousser. Non, je rigole. On laisse pousser les cheveux, mais c'est pas non plus. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Hein. Si on a envie d'aller se rafraîchir chez le coiffeur, on peut. Et donc, voilà, il n'y a rien de plus.
Bon, la barbe, pour les filles, c'est vrai que pour les filles, on ne fait pas pousser grand-chose.
Non.
Maintenant qu'on vous a bien repéré, on faut savoir lui parler au gazard parce qu'il y a aussi du vocabulaire. Il y a un certain vocabulaire qui s'appelle l'argat, c'est ça? Est-ce qu'il y a un lexique?
Oui.
Très bien renseigné.
Oui, il y a un petit lexique.
Comment on fait alors pour parler le gazard?
On met DS à la fin des mots.
En fait, on a l'argat, donc c'est un vocabulaire, un ensemble de mots qui est issu de deux choses. du passé militaire de l'école, donc on retrouve pas mal de termes issus de la marine, et à la fois de l'argot qui vient du français courant, enfin du français. Donc c'est un mélange de deux choses. Comment on fait pour le parler ? Donc voilà, je peux vous donner des exemples si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Alors par exemple.
Apprenons à parler le gadzar sur Radio Campus Angers.
Pour dire le mot de base pour dire bonjour, salut, on dit sals. Voilà, ça fait partie des premiers mots qu'on apprend, voire du premier mot. On met souvent des S à la fin. Alors, c'est vrai que c'est pour créer un sentiment de communauté, d'appartenance. Bien sûr, il faut prendre ça avec recul. Hein. On ne parle pas toujours comme ça. On n'est pas non plus voilà. On sait s'arrêter quand il y a des gens, nos petits amis qui viennent, quand on est dans des soirées. Voilà, on arrête de parler. Mais c'est vrai que c'est parti un peu de notre folklore, on va dire. Ouais.
Et dans ce folklore, il y a aussi ce qu'on appelle le monôme. Est-ce que vous pouvez décrire ce que c'est que le monôme ? C'est pas une cérémonie, c'est une procession en file indienne ? Giovanni ?
Donc le monôme, tout d'abord, ça nous permet du coup de défiler lors de la bienvenue, où on va jusqu'à la mairie en file indienne pour se faire remettre les clés, ou à la délivrance.
Les clés de la ville. On en
parle, hein. Voilà, les clés de la ville. Donc c'est quand même assez difficile à faire, puisqu'il faut que tout le monde soit bien en phase, tape bien en même temps le rythme avec le pied. Donc c'est assez difficile, et puis il faut aussi chanter en même temps les chants. Et ça, vu la difficulté, il y a quand même un peu d'entraînement derrière, et du coup ça permet du coup de forger encore un peu plus les liens de la promotion par cet entraînement.
À travers le monôme, on retrouve encore ce petit clin d'œil, par exemple aux cheveux longs, etc., pour un peu embêter l'encadrement militaire. Parce que on tape du pied, mais on traîne un autre pied. Donc c'est pour montrer qu'on a une cadence pas nette, etc. C'est encore un signe de protestation envers l'encadrement militaire qui était très strict il y a quelques dizaines d'années.
Alors, on parlait du monôme. Est-ce que le monôme fait partie de l'usinage ou période de transmission des valeurs ? C'est comme ça qu'on dit ? C'est votre période de... Alors, on ne dit pas bizutage ? Non.
On ne dit pas puisqu'il n'y en a pas.
Alors, ouais. C'est comment ? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer ? Cette période de transmission des valeurs, comment ça s'inscrit dans l'école ? C'est les premières années. Alison, j'imagine que vous êtes en période de transmission des valeurs ou c'est terminé ?
Ouais, je suis encore en période.
C'est l'usinage également. C'est ça, c'est un synonyme. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste, ce que ça recouvre, en fait ?
En fait, il s'agit de partager les traditions des arts. Donc, c'est en fait une façon de nous expliquer l'histoire de cette école, qui est très ancienne, toutes les valeurs qui sont transmises à travers les âges. Donc, ça fait quand même 200 ans que les valeurs se perpétuent. Et c'est aussi une façon de... C'est très intéressant, puisque ça nous permet d'apprendre à connaître nos camarades de promotion, en fait. Dans le sens où on fait beaucoup d'activités tous ensemble, où on doit apprendre à se connaître et à s'entendre tous ensemble pour arriver, par exemple, à prendre des décisions, à trouver des décisions ensemble. Donc c'est vraiment très coopératif.
Par exemple, il y a ce qu'on appelle la construction des chars. Effectivement, lors de la bienvenue, le gala de début d'année, on va...
Qui a lieu quand, pardon ?
Alors, qui a eu lieu en mi-septembre. On défile jusqu'à la mairie et les premières années sont amenées à construire des chars eux-mêmes en prenant du matériel, des matos de récupération. Et on les incite à construire des chars, et du coup, ça leur fait une petite activité de cohésion, ils apprennent à se connaître grâce à ça, etc. Donc c'est des trucs un peu plus concrets. Voilà.
Et tout ça fait partie du baptême ou non ?
Alors le baptême, c'est une cérémonie qui a lieu près de la Sainte-Cécile et qui signifie vraiment l'entrée des premières années dans la grande famille des Gadzars, en fait.
Concrètement, ça consiste en quoi ?
Il y a...
Ça ressemble à quoi, un baptême ?
Un baptême, alors, ça allait dans notre cloître. Je ne vais pas trop en dire, parce que c'est encore un peu l'effet de surprise pour...
pour Alison.
Mais, en fait, c'est très simple. Hein, on chante, il y a un discours, il y a des anciens élèves qui reviennent, très important. Il y a nos parrains de 25 ans avant qui reviennent, il y a des familles qui sont invitées, voilà, et après il y a une grande fête, voilà, c'est un peu les grandes lignes, quoi.
Et est-ce que jusqu'au baptême on est un conscrit ou encore après ? Le conscrit c'est la première année, c'est ça ?
Justement, de ce point de vue-là, il y a quelques noms qu'on donne. Donc le conscrit, c'est justement la personne après son baptême. Et avant, on appelle ça juste un onscrit, du coup. C'est un conscrit qui est pas encore, qui est encore en période de formation.
On enlève le C avant le baptême, voilà. On le rajoute ensuite, et en deuxième année, on n'est plus conscrit.
En deuxième année, on est ancien.
Déjà.
Voilà. On reste conscrit. On est conscrit, viscrit. Il y a plein de termes, voilà. Synonymes après.
Et les anciens élèves, on les appelle les archis. Voilà.
D'accord. Onscrit, conscrit, ancien, archi.
Voilà, archi qui vient d'archive d'ailleurs, c'est un peu le. Voilà. C'est toujours un sens derrière. Ouais.
Et puis, donc ça c'était la cérémonie du baptême. Il y a le gala de la délivrance aussi à la fin de l'année. Alors ça c'est pour les anciens qui vont devenir archi.
Il y a un petit stade entre deux, ça s'appelle P3, c'est les troisièmes années.
Ok.
Mais c'est pas
j'essaie, j'essaie d'apprendre en même temps. Là,
En fait, la délivrance c'est pour tout le monde qui peut revenir, que ce soit des anciens élèves, donc des archis. Ou des élèves présents sur Angers, première, deuxième année, troisième année, où tout le monde revient, et c'est pour célébrer la fin de l'année, l'année qui s'achève, souvent les promos qui se séparent, parce que les deuxièmes années, souvent, donc, partent à droite, à gauche, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, on organise un grand week-end où tout le monde revient, et c'est les au revoir avant de nouvelles aventures.
Une autre cérémonie qui rythme ces trois années d'études aux arts et métiers, c'est la cérémonie des 508.
C'est pas vraiment une cérémonie.
C'est pas une cérémonie.
C'est un week-end, en fait.
Week-end des 508. Ça symbolise la moitié de la scolarité. Donc ça arrive en deuxième année. Ça consiste en quoi? C'est un week-end classique
Alors, ce week-end, le principe est simple. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pour symboliser la moitié de la scolarité aux arts et métiers.
508, pourquoi?
508 jours.
Ah oui, tout bêtement.
Voilà.
C'est la moitié. Et c'est un week-end de fête qui a lieu, ce sera en janvier cette année, qui a lieu donc, entre les élèves. Et il est organisé par les premières années, en fait. Voilà. Ça, c'est pour. Ça donne un sens aussi à cette période où on les a fait apprendre à se connaître et pour leur montrer que maintenant ils sont capables d'organiser des choses. Voilà.
Alors, dans ce studio, il y a deux filles, deux garçons. Comment ça se passe? C'est facile de s'intégrer à l'ENSAM quand on est une fille? C'est bon? Ou alors, il y a encore des petites difficultés? Lucie?
Tout d'abord, on a été quand même habitués à être dans un milieu de garçons parce qu'on vient souvent de prépa scientifique. Donc, les proportions sont exactement les mêmes. On a eu le temps de s'adapter il y a longtemps.
Aux hommes?
Aux hommes, et puis il y a quand même quelques filles. Donc en général, ça se passe très bien. Ce qui est rare est protégé. Donc on est très bien accueillis et on passe de super années. Je vous dirais même qu'on est un peu choyé. C'est bien.
Oui, globalement, comme on est quand même très peu de filles, donc une quinzaine pour donc en première année. En fait, on se connaît toutes, et surtout pour les autres, c'est facile de nous connaître, donc ils retiennent facilement les têtes, les prénoms, et en fait, on est très bien intégrés. Tout le monde nous connaît forcément un peu, c'est un peu d'où on vient, parce que c'est facile de retenir donc plus facilement les filles que les autres, tous les autres garçons. Donc globalement, on est vraiment très bien intégrés. Ouais.
Sur le site l'étudiant.fr, il y a un témoignage de Gadzar qui dit « Vu de l'extérieur, il est vrai que nous avons toutes les caractéristiques d'une secte. » Alors, j'attends que vous bondissiez, mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous voient d'un peu loin, avec tout ce vocabulaire
Très simplement, on est étudiants qui est suivant des cours. Déjà, on a beaucoup d'heures de cours même par rapport à d'autres écoles. Donc, nous parler de secte, il n'y a pas vraiment de but derrière.
Mais le truc principal, c'est qu'une secte, il y a la notion de dégradation des personnes, de détournement.
J'entends bien.
Voilà. Et nous, quand on entend ça, ça nous fait soit rigoler, soit pleurer, ça dépend comment on voit les choses. Parce que clairement, tout est fait, je dirais pas que c'est un monde de bisounours, mais presque, dans ce sens, tout est fait pour que tout le monde se connaisse. Il y a vraiment une très bonne ambiance et effectivement on a des traditions qui fait que de l'extérieur on peut nous croire un peu entre nous, mais je pense que quand on nous voit le soir dans la rue, quand on organise nous-mêmes des soirées, on peut voir qu'on est quand même assez ouvert, donc non, pas parler de sexe, ça nous fait forcément un peu bondir, parce qu'on sent tellement bien aux arts que ça nous paraît vraiment incroyable d'entendre ça, quoi.
Mais voilà, il ne faut pas confondre communauté d'étudiants, là pour quand même voilà, s'amuser, hein, après 2 ans de prépa, ou plus. et secte, enfin, on n'a pas de grand gourou qui nous dit quoi faire, qui nous fait un lavage de cerveau, ni rien. Non, c'est purement, voilà...
Non, on insiste sur quand même la liberté aux arts, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Chacun est libre de porter sa blouse, pas porter sa blouse, voilà, c'est...
Et qu'est-ce que vous diriez aux étudiants qui sont actuellement en prépa et qui visent à l'ENSAM ?
Bah, de ne pas avoir peur justement du fait que ce soit une secte, parce que ce n'en est pas une.
Et qu'il faut s'accrocher.
Ouais. Ça vaut le coup.
Oui, vraiment.
C'est ça. Merci beaucoup à vous quatre, Alison, Lucie, Guillaume et Giovanni, d'avoir été dans le sous-marin ce soir. Tout de suite, on va écouter Innovation de Guts avec Marsa Hayes. I'm in the building with my man Guts and my man DJ Fab. That's right. It's hip-hop after all. Real hip-hop for the world. That real stuff. You know that stuff that hits you in your gut. Let's go. That beautiful music for your rap souls. This the antidote for whack flows and rap shows. This the definition that the rest are missing. If you don't know what this is, then it's best to listen. This a mission that'll leave you in the best condition. This decision will put you in the best position. This a walk in the park, new track shoes. This a wild roller coaster ride when the track moves. This is not, I'ma kill a bunch of black dudes. Nope. These are not popping Molly in the back moves. Nope. This a fresh pair of Wally's on your feet moves. This them back block New York City street crews. What? And we defeat crews. Yeah. It's for the love of this. From these lips that I spit, you will love a kiss. So pucker up and get ready, dame un beso. And I'ma give it to you right after you say so. This the realness, yes, this the realness. In your core rap roar, you can feel this. From the bottom of the room to the topsoil. What it is it's hot, make a pot boil. And it's not gonna stop, no, it never will. Every day you can say it, get better still. And it's always on time, no, it's never late. Sounds great, you can hate, you can innovate. This that boom bap, yep, this that boom bap. This that hands high, middle of the room rap. This that long dark alley where the goons at. This that DJ, please bring that tune back. Don't assume that, this ain't what you really need. Cause if it hits you in your head, you can really bleed. This that blunt force trauma rap. Not that three baby mama drama rap, we don't honor crap. This that high blood pressure flow. From a professional, can't handle this, then it's best to go. And I suggest you know, before you jump into it. You gon' dance, you gon' sing, do something to it. Just as sure as your heartbeat pumping fluid. It's gon' keep you alive, oh yeah, you will survive. It's that lifeblood of our generation and our culture. This is called innovation. Innovation.
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est lundi, il est 19h30. Bref, c'est l'heure de retrouver la chronique Lance Torpille de Yann.
Bonsoir, bonsoir et bonsoir.
Bonsoir.
J'ai un gros nez rouge, des traits sur les yeux, je m'appelle plus de l'air, un chapeau qui bouge, je vous découpe en deux. Vous l'aurez compris, ce soir je vous parle des clowns du Nord. Depuis gamin, j'ai toujours entendu des amis dire qu'ils avaient une peur phobique des clowns, mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Ces mêmes amis me rapportaient l'existence de clowns cambrioleurs, de clowns tueurs, de clowns pédophiles, et bien d'autres légendes urbaines plus effrayantes que les histoires des éditions Chair de Poule de l'époque.
Celles qu'on racontait autour du feu en colonie de vacances.
Absolument, de ce genre-là, des histoires d'enfants. Et moi, j'étais un gamin qui adorait aller au cirque. J'ai jamais eu de problème avec un clown. Je les trouvais très drôles. Bon, aujourd'hui, c'est moins le cas, mais ça, on s'en fout. Et puis, l'autre jour, comme je me tiens un peu au courant de l'info, j'apprends que des mecs déguisés en clown s'amusent à effrayer des passants. À la base, ce phénomène vient des USA, parce que je me suis un petit peu renseigné. Alors, ça vient de Californie, où des photos de clowns armés dans les rues de Wasco sont apparues sur Instagram. Et en France, les mecs sont allés encore un peu plus loin en agressant des passants avec ce qu'on suppose être des armes factices.
Mais alors ils sont dangereux ou non ?
Bah pas vraiment, non. Mais le premier problème qui se pose, c'est que ces clowns s'en prennent à des plus jeunes et plus faibles qu'eux, à des collégiens et à des enfants. En gros, ces mecs sont des petits cons. Comme le jeune de 19 ans condamné la semaine dernière à 6 mois de prison avec sursis pour avoir effrayé son petit voisin de 6 ans, puis un groupe d'ados. Merde, tu veux faire peur à quelqu'un, mets-toi un challenge de l'enjeu, attaque-toi un routier, biker, tatoué de 130 kilos. Là, si tu le fais flipper, c'est beaucoup plus drôle. Porte tes coronesses un peu, et va jusqu'au bout de ta blague. Quoi, tu commences à t'inquiéter, tu penses que tu vas te faire péter la gueule. Bah oui, le voilà, le deuxième souci. À force d'effrayer des gamins, il y a des papas, n'ayant pas l'air d'aimer ce genre de blague, qui vont se faire justice eux-mêmes. Bon, ça, est-ce que c'est un problème ? Oui, il se révèle généralement que les mecs déguisés en clowns sont des ados entre 15 et 20 ans. Donc, vaut mieux éviter, et puis je rappelle que la violence ne résout rien. D'ailleurs, si tu veux, j'ai un proverbe chinois qui me vient là. C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes avec violence.
Ça, c'était bien senti. Et tu penses que ce phénomène pourrait arriver à Angers ?
Sachant qu'Halloween est dans quelques jours, forcément, il y en a un ou deux qui vont trouver ça amusant. Alors, c'est possible, en tout cas, n'ayez pas peur, ce ne sont que des gamins. Messieurs, mesdames, si vous en croisez un, foncez sur lui, il sera surpris et aura bien plus peur que vous, ou appelez du secours. Et si vous êtes coincé comme dans le coin d'un ring de boxe, tentez la technique de lui enlever son nez rouge. Ça le déstabilisera à coup sûr, désolé pour la petite accroche. Et puis finalement, comme tu le dis toi-même, c'est un phénomène. Et le principe d'un phénomène, c'est que ça ne tient pas dans le temps. Comme tout, dans 3 mois on aura oublié et on n'en reparlera plus. Et la peur des clowns reviendra de droit aux coulrophobes. Coulrophobes, c'est le nom des phobiques, des clowns.
Merci pour ce petit point vocabulaire, Yann.
Mais de rien.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Vendredi qui vient, le groupe belge Brains sera en concert au Shabada, un groupe que vous avez sans doute connu avec le titre Mexico. Nous avons passé un coup de fil à Antoine Merseman, le chanteur de Brains. Restez avec nous juste après ça, il y aura deux places à gagner pour le concert de vendredi. Bonjour Antoine Messerman.
Bonjour.
Vous êtes le chanteur de Brains, un groupe de rock belge qui passe au Shabada à Angers le 31 octobre. Et vous venez de sortir avec votre groupe le premier album finalement qui s'appelle Patine après un premier EP Wounded qui était connu pour le succès de la chanson Mexico entre autres. C'était urgent de sortir rapidement là, un album après ce succès justement.
C'était pas urgent et à vrai dire on a mis quand même pas mal de temps vu que Wounded était sorti en 2012 sur la France. Et en fait, on a tourné énormément après Wounded. On a fait, je dirais, 200 concerts, quelque chose comme ça. Et on a eu très peu de trucs composés. Donc, on revenait de tourner, on faisait un squelette de chansons, on repartait. Et puis, ça s'est fait comme ça, en fait, pendant 2 ans. Donc, on a pris notre temps tout en n'ayant pas eu énormément de temps pour le travailler. Donc, voilà, on est super contents qu'il sorte. En fait, on avait bouclé le disque. Il y a presque un an déjà et ça a pris beaucoup de temps pour beaucoup de retard pour la sortie. Donc voilà, c'est un plaisir qu'il sorte maintenant.
Pour quelle raison ça avait pris du retard ?
Ça a pris du retard tout simplement parce qu'on a dû changer de label en fait. Donc on était chez Naïve, label français, puis maintenant on est chez Pièce. Donc au niveau des agendas et tout ça, ça coïncidait pas. Donc c'était assez frustrant parce qu'on avait tout le matériel en main et voilà, on ne pouvait juste pas le sortir parce que ça ne se mettait pas au niveau timing.
Comment est-ce que vous avez reçu le succès de Mexico ?
Et en fait, ça a été complètement étonnant pour nous parce que quand on a en fait au départ, on avait juste trois chansons sur internet, mais vraiment de manière assez naïve, et on s'attendait pas du tout à avoir un quelconque succès, donc c'était vraiment on avait fait ça vraiment à l'arrache. Et à un moment, les gens nous ont dit qu'on tenait un single, mais on n'en avait aucune idée en fait, à vrai dire. Donc après, on s'est bien rendu compte qu'on devait un peu jouer notre carte sur cette chanson là, même si on n'a pas trop poussé non plus ce titre là par rapport aux autres, et voilà. Donc maintenant, le nouveau tournant, ça va être de gérer le tournant sans Mexico, parce que je crois qu'on n'est pas reproduit le même single sur ce disque-ci. Mais voilà, on verra comment le public suit.
C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que quand on a créé un single sans le vouloir, après on recherche quand même à refaire un single ?
Ben non, je pense qu'on n'a jamais été dans... Vu que le premier single, on n'avait pas du tout cherché à le faire. Ça s'est vraiment mis comme ça parce que c'est vraiment la première chanson qu'on ait composée en fait en groupe. Voilà, ici on a vraiment gardé notre démarche habituelle sans vraiment se poser de questions. Et je crois que si un jour on doit refaire une chanson vraiment très pop avec une structure classique, on le fera. Mais c'est pas quelque chose qu'on va rechercher, quoi. C'est vraiment du hasard en fait.
Vous avez fait 200 concerts entre Wounded et Patine. Vous avez tourné partout, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Suisse, en Estonie, au Royaume-Uni, j'en passe. Est-ce que vous arrivez à définir une typologie de votre public ? Est-ce qu'il y a des publics différents suivant les pays ? À quoi ça ressemble un public de Brains ?
C'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est à chaque fois différent. Et je crois qu'en live, c'est assez parlant pour que ça puisse passer les frontières. Après, c'est vrai que les gens, en tout cas, d'un pays à l'autre, n'ont pas du tout la même manière de réagir. Par exemple, le public français, malgré ce qu'on puisse penser, est assez expressif. Alors qu'il y a des publics en Belgique, on est finalement plus calme. Aux Pays-Bas, les gens chahutent tout le temps. Et alors, par exemple, on est allé dernièrement en Russie, et là, les gens sont... regarde ça comme s'ils étaient à l'opéra, quoi. Donc c'est vrai que c'est impossible de vraiment savoir quel public on a réellement. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fonction des territoires, on va avoir des réactions très différentes. Et, des gens qui s'emballent à des moments où on s'y attend pas du tout, et tout ça. Et c'est ça qui rythme un peu notre quotidien aussi.
J'ai lu dans une interview au journal Le Vif que vous aimeriez aller au South by Southwest à Austin pour goûter le public américain.
Voilà, donc c'est vrai qu'on a, on pourrait le faire cette année. On ne sait pas encore si ce sera possible parce que voilà, il faut se dire que c'est des concerts où on n'est pas du tout financé, donc ils coûtent extrêmement cher au groupe. Il faut vraiment avoir des moyens en fait pour y aller. Et on n'a pas envie d'y aller juste pour faire un one shot parce que c'est un festival hyper intéressant, mais si on y va juste pour une date, c'est un peu con. Donc on aimerait faire une petite tournée avec ça, donc on va vraiment voir. Mais c'est vrai que c'est un festival assez incroyable où à peu près toute la scène indé mondiale se retrouve, et donc si on travaille bien le truc, ça peut être une carte à jouer, mais on n'est pas encore sûr et certain. D'ailleurs, la personne qui a publié ça dans Le Vif ne devait pas normalement, donc
Oh mince. comment se porte la scène rock belge, à part Brains, bien sûr, en ce moment ?
Il y a énormément de choses qui se passent. C'est vrai que pendant longtemps, il y a eu À un moment, il y a une sorte d'essor de la scène belge post-Deus avec Ginzou, Gavin Hawaii, Charcot, etc., qui ont d'ailleurs pas mal tourné en France, vous devez sûrement les connaître. Et en fait, au fur et à mesure, cette génération-là a vieilli, et donc ça a été un peu moins excitant. Et c'est vrai que nous, quand on est arrivé, en fait, on ne savait pas du tout. Voilà, on jouait un peu comme ça pour le plaisir. Et c'est vrai que les gens disent, ah ben voilà, enfin, quelque chose qui se passe de nouveau. Et depuis, en fait, il y a énormément de projets qui ont émergé, qui sont vraiment intéressants. Donc, par exemple, je pense à de notre côté du pays, à Robbing Millions. Par exemple, qui est vraiment un groupe qui commence à tourner en France, qui est hyper intéressant. De l'autre côté du pays, du côté néerlandophone, il y a par exemple Madden Suyu qui est un groupe un peu de noise vraiment assez dingue en concert. Il y a plein de choses qui se passent. On ne peut pas encore vraiment parler de scène parce que ce n'est pas des gens qui vont forcément travailler ensemble. Mais je crois que dans quelques années, ça risque de faire des choses intéressantes.
Et comment va la Belgique tout court avec ce nouveau gouvernement qu'on attendait?
La Belgique, ça a pas bien du tout là. C'est un peu le naufrage. Pour résumer, il y a une sorte de bande de néo-nazis qui sont au pouvoir en ce moment. Donc ça va, c'est déclaration sur déclaration. Les gens qui disent que les collabos à l'époque avaient leur raison, certainement, enfin, ce genre d'ineptie. Donc c'est un peu un drôle de contexte, et surtout que c'est vraiment un gouvernement de droite, voire d'extrême droite, complètement séparatiste aussi. Donc l'avenir de la Belgique, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Et alors c'est ultra hostile par rapport aux chômeurs, aux artistes, etc. Donc ça va être la chasse aux sorcières. Donc voilà, on pensait que vous étiez avec Marine Le Pen et tout ça, que vous étiez que c'était pas un cadeau pour vous, mais maintenant on peut plus faire les malins non plus.
Personne n'a le moral finalement.
Exactement.
À quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende au Shabada à la fin du mois?
À vrai dire, je ne sais pas très bien. On verra. C'est vrai qu'on n'est jamais allé à Angers, donc je crois que ça va être un plaisir de voir cette ville. D'ailleurs, notre éclairagiste est d'Angers. Je ne sais pas comment on appelle les habitants d'Angers.
Les Angevins.
Les Angevins. Les Angevins. Et donc, je crois qu'on va essayer vraiment de faire un chouette concert, parce que c'est vrai que sur cette tournée, il y a énormément de lieux, on est déjà passé, donc on aura notre public, etc. Mais sur Angers, on va devoir faire nos preuves, donc je crois qu'on va essayer de tout donner là-bas.
En tout cas, les Angevins vous attendent de pied ferme. Merci.
Bien, c'est une bonne nouvelle.
Merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à nos questions.
Avec grand plaisir, et on se voit fin du mois.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Antoine Mersman, le chanteur de Brains, qui sera, je le rappelle, en concert vendredi au Shabada à 21h avec Ungard Thorsen en première partie. Et si vous voulez y aller, le Shabada vous offre deux fois deux places. Il vous suffit de répondre à cette question. Comment s'appelle le roi des Belges? Envoyez votre réponse à communication@radiocampusangers.com. Last Case de Brains sur Radio Campus Angers. La perme de ce soir dans le sous-marin, ça se passe au Donald's Pub, parce que c'est pas parce qu'on a changé d'heure et qu'on fête les morts dans une semaine qu'il faut se laisser abattre. Comme tous les lundis soirs, c'est donc Blind Test à partir de 20h au Donald's. On termine cette émission avec la traditionnelle bulle sonore dans le sous-marin, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Tous les jeudis soirs, entre 21h et 22h, retrouvez Dubway, nouveau programme de la grille de cette saison. Petit cours de vocabulaire avec l'équipe qui nous explique ce que signifie dub.
Dub, c'est trois lettres. Et ça veut dire quoi?
Ok, alors pour ça, je vais vous parler de l'origine du mot dub. Donc le mot dub est utilisé aujourd'hui pour parler du genre dub. Mais on ne sait pas vraiment qui est l'inventeur de ce mot. Mais de toute façon, on peut trouver plusieurs origines. D'abord, on va voir le dubbing, qui consiste à retrouver ou à sauvegarder un format audio sur un nouveau support. Après, comme Gauthier en a parlé au début, on a la dub plate, qui est un disque acétate qui sert de moulage pour les vinyles, et elle servait aussi de test pour les tout premiers morceaux de dub qu'on vous a passé tout à l'heure. Après, on a le double, donc double, en raison de la multitude de versions dubwise des morceaux, comme vous avez entendu avec Abba Shanti. Après, on a aussi le rub-dub, qui est apparu en 1987, qui signifie l'écho d'un son de tambour. Et enfin, on a overdub, qui est le fait de rajouter une piste sonore, donc la dubwise.
Ok, et là-dessus, il n'y a pas plus de... C'est-à-dire qu'il y a autant d'interprétations possibles, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, il y a pas de... Enfin, c'est un mélange de choses...
C'est ça, c'est ça. Personne ne sait vraiment exactement le moment pile où ça a été, inventé.
Okay. Et petit point, ouais, t'avais encore un truc à dire?
Bah du coup, ouais, on peut retrouver pas mal d'origines différentes.
Ok, bah c'est cool. Et un autre truc aussi à préciser, on confond souvent dans l'imaginaire collectif, entre guillemets, le dub et le dubstep. Alors quand on connaît pas,
Attention aux confusions. Hein,
il faut faire gaffe quand même.
Ça ressemble pas mal, mais
ça peut en énerver certains.
En fait, le dubstep, c'est un genre musical qui est apparu plus récemment, qui est une fusion de plusieurs styles. Et donc le mot dub, c'est pas un diminutif de dubstep. Le dubstep, c'est un peu plus proche de la drum and bass.
Vous pouvez réécouter la totalité du programme Dubway sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Ostros Mundos. Michel a fait se promener des micros tout autour du monde. Et le résultat, c'est donc dans une petite dizaine de minutes sur Radio Campus Angers, suivi à 20h30 de Breakfast Radio, une demi-heure de voyage à travers les ondes internationales au fil du lever du soleil. Bref, on voyage jusqu'à 21h. Nous, on se retrouve demain, dès 19h, le sous-marin causera squat. Merci à Yann, merci aussi à David pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous!
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.